sur la côte vendéenne. Il est 21h.
Neptune FM.
Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Tajiri Satoshi. On parlera ensuite de plusieurs mangas des éditions Delcourt Tonkam. On aura la présentation du Dévoreur de Souvenirs, la chronique du volume 2 de Golden Ship. On aura ensuite la présentation du manga JoJo's Bizarre Adventure saison 2 Battle Tendency et la chronique du volume 2 de G-Boy. On aura ensuite un petit point sur les sorties manga de la semaine. On aura une petite actualité en Chine et on finira l'émission avec une petite news musicale. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Yume no Temaede de Michiro Kojima. Et on reviendra juste après pour parler de l'artiste Tajiri Satoshi.
Thank you.
c'était Michiru Kojima avec la chanson Yume no Temaede. On passe maintenant à l'artiste Tajiri Satoshi. C'est un auteur, réalisateur et scénariste japonais qui est né le 21 août 1965. Il est donc âgé de 55 ans et il est en activité depuis 1982. Satoshi Tajiri est un concepteur électronique japonais de jeux et le créateur de Pokémon. Tajiri a passé son enfance dans une banlieue de Tokyo où il aimait collectionner les insectes et les chasser partout, au bord des mares, dans les champs ou en forêt. Il en cherchait tout le temps de nouveaux et imaginait même de nouvelles techniques pour attirer les scarabées. Il était tellement attiré par les insectes que ses copains l'appelaient Dr. Bug. Le jeune Satoshi n'aimait pas l'école, son père voulait qu'il devienne électricien, mais lui-même ne le souhaitait pas. Donc plus tard, dans les années 1970, les champs et les mares que Satoshi avait tant aimés ont été transformés en appartements et en parking. C'est à cette époque que germe l'idée des Pokémon. Satoshi Tajiri voulait offrir à la nouvelle génération d'enfants la possibilité de chasser des créatures, comme il l'avait fait étant petit. Entré en école technique, Tajiri se plonge dans les jeux vidéo. Il était un tel fan que l'une des salles d'arcade où il passait tout son temps lui a même donné une machine Space Invaders à ramener chez lui. En 1982, Tajiri crée avec des amis le magazine de jeux Game Freak. L'un de ses amis était Ken Sugimori, qui a dessiné toutes les images de Pokémon. En 91, Tajiri découvre la Game Boy. Quand il voit pour la première fois les Link câbles, donc les câbles de connexion, il imagine aussitôt des insectes qui rampaient le long de ces câbles. Les Pokémon étaient alors nés. Le jeu se base au départ sur certaines des idées de Creatures, un autre studio concevant des jeux vidéo. Tajiri appelle ensuite son entreprise Game Freak, comme le magazine, qui continue ainsi d'être considéré comme le début des jeux Pokémon. Tajiri part travailler pour Nintendo et passe les 6 années suivantes à concevoir les Pokémon. Il devient ami avec Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario Bros, The Legend of Zelda, Pikmin et Donkey Kong. Et en hommage à Miyamoto et Tajiri, Sacha Ketchum ou Red dans la version rouge et Blue dans la version bleue de la série sur Game Boy est appelé donc Satoshi, et Regis Chen ou Blue dans la version rouge et Red dans la version bleue est appelé Shigeru dans les versions japonaises de Pokémon. Donc voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite deux chansons dont les paroles ont été écrites par Tajiri Satoshi. On commence avec Mezase Pokémon Master, interprété par Rika Matsumoto, et on revient juste après pour parler du manga Le Dévoreur de Souvenirs.
Pokémon !
ポケモンゲットだぜ。
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Donc c'était Sachiko Kobayashi avec la chanson Kaze to Ishuni, avec dont les paroles ont été écrites par Tajiri Satoshi. On passe maintenant à la présentation du manga Le Dévoreur de Souvenirs, du titre original Kyokuya Gensaku. Alors c'est un seinen de genre horreur, mystère, romance, surnaturel, qui a été écrit par Origami Kyoya, dessiné par Murayama Nachio et prépublié dans les Shonen Gangan, Gangan Online et Manga Up. La version japonaise est parue en 2017 aux éditions Square Enix avec un total de 2 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 26 août 2020 aux éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight avec également 2 tomes. Vous pourrez retrouver Le Dévoreur de Souvenirs dans le commerce au prix de 7,99€. L'âge conseillé pour le lire est de 12 ans et plus. Et il existe une adaptation au cinéma qui a vu le jour au Japon. Il vaut mieux parfois laisser son passé derrière soi pour avancer. Le résumé de cette série, Ryoichi, étudiant, mène des recherches sur les légendes urbaines et s'intéresse à la façon dont elles se répandent. Alors que plusieurs personnes perdent étrangement la mémoire autour de lui, il entend parler d'un mystérieux monstre, le Kyokuya, qui se nourrit de souvenirs. Mais ce Kyokuya existe-t-il vraiment? Et pourquoi chercherait-il à effacer la mémoire de ceux qui viennent le voir? Voilà, donc Le Dévoreur de Souvenirs, paru aux éditions Delcourt Tonkam, a retrouvé donc en 2 tomes une toute petite série. On va s'écouter tout de suite la chanson Destiny de Miki Matuashi et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Golden Ship. Thank you. C'était Maki Matouassi avec la chanson Destiny. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Golden Ship. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre drame, romance, tranche de vie qui a été écrit par Ozaki Kaori et prépublié dans le Afternoon. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 3 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Delcourt Tonkam avec pour le moment 2 tomes. Ce volume 2 est sorti le 23 septembre 2020 au prix de 7,99€ et le tome 3 est prévu pour le 17 février 2021. Le résumé de ce tome, Tsugu et Sora ont fui leur ville de province pour tenter leur chance à Tokyo. Ils se font embaucher à l'ancienne, gîte et couvert compris, par un vieillard très étrange qui tient une boutique de croquettes de pommes de terre panées. De son côté, Yushin laisse tomber l'école et se prépare pour devenir boxeur professionnel. Asari est amoureuse de lui depuis toujours, mais ne sait décidément pas y faire avec les relations personnelles et elle se retrouve vite sur la touche. Alors, en revenant dans sa ville natale après des années, Tsugu pensait avoir retrouvé les choses comme elle les avait laissées, mais elle n'a pas tout de suite compris que ses 3 amis d'enfance avaient bien changé. C'est en assistant à la tentative de suicide de Sora que le déclic se fait, et l'adolescente prend alors une décision radicale, fuir cette ville de province avec Sora et gagner Tokyo où se trouvent son père et son grand-père. La jeune fille a ainsi pu recroiser la route de son libre et musicien de père, avant d'élire domicile chez Sora, avec Sora, chez le grand-père Jinji, où tous deux s'installent pour relancer sa petite boutique de croquettes en se faisant embaucher, gîte et couvert compris. Sous la houlette de ce vieil homme un peu exubérant, les deux adolescents s'adonnent du mieux qu'ils peuvent quotidiennement à leur travail, en assimilant avec application la fabrication des croquettes. Une chose en apparence simple, mais qui sera peut-être le début d'un renouveau pour Sora. Donc, il y a 2 jours, je voulais mourir et aujourd'hui je mange une croquette à la viande dans une ville que je ne connais même pas. Cette phrase témoigne assez bien de l'état d'esprit dans lequel se retrouve Sora au fil de ce deuxième volume. Sauvé de la mort par Tsugu dans le tome 1, il l'a suivi jusqu'à la capitale, où c'est une sorte de reconstruction qui l'attend. Il s'applique dans son job, y trouve même du plaisir, peut compter sur la présence de Tsugu pour qui ses sentiments semblent clairement évoluer au fil de leur quotidien ensemble, que ce soit à la boutique ou lors de sorties. Le garçon qui voulait disparaître, qui se sentait faible et inutile, retrouve ici goût à la vie, se trouve une place. Mais à présent que Tsugu et lui ne sont plus dans leur ville natale, qu'en est-il de leurs 2 autres amis d'enfance laissés derrière eux? Le cas d'Asari reste ici brièvement évoqué, aussi espère-t-on forcément l'avoir plus approfondi dans le 3e et dernier tome. Mais il reste que ce que l'on entrevoit un peu plus d'elle est intéressant, entre la lente prise de conscience que sa jalousie était peut-être mal placée, et les souvenirs d'une certaine jeune fille qu'il a autrefois sauvée quand elle était petite. Cependant, c'est bien Yushin qui finit par prendre de l'ampleur ici, car suite au départ de son ancien ami et souffre-douleur Sora, le jeune garçon se remet sérieusement en question, s'interroge sur ses tares et sur la façon dont il a exorcisé ses souffrances intérieures sur Sora, et il fait enfin face à ce qu'il est devenu, ou plutôt ce qu'il ne veut pas devenir, un déchet incapable de prendre son existence en main. Le voici donc désireux de passer pro en boxe après avoir lâché les cours, mais pour cela, il devra peut-être aussi oser se confronter à son père, à cet homme qui a tout gâché, à ce paternel auquel il ne veut absolument pas ressembler. Dans Golden Ship, chacun de nos héros adolescents continue alors de se frotter aux événements les ayant brisés, pour peut-être mieux se relever. Rien ne sera forcément facile, comme le montrera l'issue du match de boxe de Yushin, mais il suffit parfois 2-3 fois rien, 2 choses simples, pour parvenir à avancer à nouveau et à se retrouver. Que ce soit pour Sora avec le travail à la boutique et la présence de Tsugu, ou pour Yushin avec la vérité sur les regrets d'un père et le simple sauvetage d'un petit chaton, le récit de reconstruction adolescente de Kaori Ozaki se bonifie donc, comme on pouvait l'espérer de la part de cette talentueuse mangaka. Les avancées simples de ces jeunes héros ont un sens, et on adore suivre leur reprise en main sous le style fluide et sincère de l'autrice, d'autant que tout semble nous promettre une fin à la hauteur dans le prochain volume. Voilà, donc Golden Ship à retrouver aux éditions Delcourt Tonkam. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Dokuku, interprétée par Miki Nagasawa, la doubleuse de Hélène dans l'anime Claymore, et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine. C'était Miki Nagasawa avec la chanson Dokoku. Donc Miki Nagasawa qui est la doubleuse du personnage de Hélène dans l'animé Claymore. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi 13 janvier chez Soleil avec le volume 3 de Anonyme, le volume 14 de Coffee and Vanilla, le volume 1 de Coma Héroïque dans un autre monde, le volume 1 de La Sorcière Invincible tueuse de slime depuis 300 ans, le volume 2 de Nosferatu et le volume 2 de Sayonara Miniskirt. Aux éditions Nomidobi, on aura la sortie des volumes 1 et 2 de Captain Tsubasa. Aux éditions Kaze, ça sera la sortie du volume 6 de Chainsaw Man. Le volume 11 de Queen's Quality. Le volume 14 de Sekaichi Atsukoi en partenariat avec Asuka. Et on aura aussi le volume 2 de Shinotori, Les Ailes de la Mort. Aux éditions Panini, on aura la sortie du volume 15 de Demon Slayer. Et aux éditions H2T, ça sera la sortie du volume 2 de Wandering Souls, qui sera le dernier tome de la série. Pour jeudi 14 janvier, chez Omake Books, on aura la sortie du volume 3 de Assistant Assassin. Aux éditions Kurokawa, on aura le volume 5 de Blue Ice World. Le volume 4 de Demon Tune, qui sera le dernier tome de la série. Le volume 22 de One Punch Man. Le volume 1 de Pokémon Épée et Bouclier. Et le volume 13 de The Heroic Legend of Arslan. Aux éditions Akata, on aura la sortie du volume 5 de Don't Fake Your Smile. On aura aussi le volume 2 de Trait pour Trait, Dessine et Tais-toi. Et le volume 4 de À tes côtés. Et donc la dernière sortie pour jeudi, ça sera le volume 12 de Naruto qui paraîtra aux éditions Hachette. La toute dernière sortie de la semaine, ça sera pour vendredi 15 janvier aux éditions Mao Édition avec la sortie du volume 1 de Nine Lives Men, un amour à sens unique. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. Je sais que ça vous avait manqué d'écouter du Vocaloid dans ma compagnie et donc je tenais à remédier à ce problème. On va donc pouvoir s'écouter tout de suite Miku Hatsune avec la chanson MSS Phantom et on reviendra juste après pour parler du manga JoJo's Bizarre Adventure saison 2 Battle Tendency. c'était Miku Hatsune avec la chanson MSS Phantom. On passe maintenant à la présentation du manga Jojo's Bizarre Adventure saison 2 Battle Tendency, du titre original Jojo no Kimyo na Boken Sento Choryu. Alors, c'est un shonen de genre action, aventure, drame, horreur, surnaturel qui a été écrit par Araki Hirohiko et prépublié dans le Shokan Shonen Jump. La version japonaise est parue en 1987 aux éditions Shueisha avec un total de 7 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 21 janvier 2015 aux éditions Tonkam avec également 7 tomes. Vous pourrez retrouver Jojo's Bizarre Adventure saison 2 Battle Tendency dans le commerce pour un prix de 7,99€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus et il existe une adaptation en animé intitulée Jojo no Kimyo na Boken de 26 épisodes de 24 minutes. Ils sont disponibles si ça vous intéresse sur ADN, Netflix et Crunchyroll. On a aussi une histoire supplémentaire en light novel, genre Joystar, avec un seul tome paru uniquement au Japon pour le moment. On a aussi un préquel en manga, Jojo's Bizarre Adventure saison 1 Phantom Blood, paru en 5 tomes aux éditions Tonkam. On a évidemment une suite en manga, Jojo's Bizarre Adventure saison 3 Stardust Crusaders, qui est paru en 16 tomes aux éditions Tonkam. On a aussi une première édition, Jojo's Bizarre Adventure, qui est paru en 46 tomes aux éditions J'ai lu. Voilà, ça commence à dater. Et pour finir, on a une adaptation en jeu vidéo intitulée Jojo's Bizarre Adventure Stardust Shooters. La deuxième saison de la grande saga Jojo's Bizarre Adventure, c'est parti. Direction les années 30, où aventuriers, soldats nazis et dieux d'un autre temps s'affrontent dans une immense chasse au trésor. De New York au Mexique, en passant par l'Italie, le périple de Jojo ne fait que commencer. Donc le résumé de ce tome, après l'Angleterre victorienne de Phantom Blood, donc paru en 5 tomes, la deuxième saison se déroule en Allemagne et au Mexique. Elle met en scène une nouvelle génération, celle du petit-fils de Jonathan Joestar, mort durant son combat contre Dio, son frère adoptif devenu vampire. Le jeune Joseph Joestar, qui a reçu le pouvoir de maîtriser l'onde, est au Mexique à la recherche de l'assassin de Speedwagon. Il tombe alors sur l'armée nazie qui a réveillé un être puissant, immortel et terriblement dangereux. Joseph constate alors très vite que ce monstre n'est pas tout seul. Donc à savoir, Jojo's Bizarre Adventure, dont la publication a démarré il y a plus de 25 ans au Japon, compte désormais plus de 100 volumes. La saison 2 Battle Tendency est parue au Japon dans les années 80. Elle est d'ailleurs très influencée par Indiana Jones et Ken le Survivant. Ça se voit tout de suite. Et à propos de l'auteur, Hiroaki Araki est né en 1960 à Sendai au Japon. Passionné, il dessine son premier manga alors qu'il n'est encore qu'un enfant et soumet ses premiers projets à des éditeurs dès le lycée. Il débute sa carrière dans les années 80 sous son vrai nom Toshiyuki Araki. Sa série phénomène Jojo's Bizarre Adventure, tant par son succès que par sa longueur de vie et le nombre de ses volumes, est emplie de références à la musique occidentale et à l'Italie, deux de ses passions. Voilà, donc Jojo's Bizarre Adventure saison 2 Battle Tendency à retrouver en 7 tomes aux éditions Tonkam. On va s'écouter tout de suite Bloody Stream, le deuxième opening de l'animé Jojo no Kimyo na Boken, interprété par Foda. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de G-Boy.
Nihilisimete
Avec la chanson Bloody Stream qui a servi de deuxième opening pour l'animé Jojo no Kimyo na Boken, on passe maintenant à la chronique du volume 2 de G-Boy. Je rappelle que c'est un seinen de genre psychologique, tranche de vie, sport, qui a été écrit par Nojo Junichi et prépublié dans le Big Comic Spirit. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 6 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Delcourt avec également 6 tomes. Ce volume 2 est sorti le 14 mai 2014 au prix de 7,99€. Donc le résumé de ce tome, enfin sorti de prison, G-Boy est maintenant confronté à son premier match de billard. Les règles sont simples, s'il perd, il meurt. S'il gagne, il saura enfin qui il est. Mais son adversaire, un vieux Yakuza, sera remplacé au dernier moment par Oshinbun, le parrain de la mafia qui prétend l'avoir conçu. Pourquoi créer un homme si c'est pour ensuite jouer sa vie contre la sienne ? G-Boy arrive donc à Taipei pour affronter en duel Monsieur Koike, un mafieux sur la corde raide qui a trahi la Chinpong, en écoulant de la drogue à leur insu. La partie se déroule dans le même bâtiment où, 15 ans plus tôt, Oshibun jouait sa dernière partie de billard. G-Boy étant un clone d'Oshibun, le challenge s'avère donc extrêmement rude. Ce second tome nous dévoile des éléments du passé de G-Boy et ses motivations actuelles à parfaire son talent de joueur de billard. Le récit tourne autour d'une romance entre G-Boy et Oshien, une beauté elle-même particulièrement douée pour le billard, profondément amoureuse de G-Boy. Nous apprenons les rudiments du jeu en même temps que les subtiles manipulations de la mafia. Oshien, par sa plastique irréprochable et son côté angélique, devient irrémédiablement le centre d'intérêt de ce second volume. Les duels, quant à eux, démontrent une fois encore la maîtrise de Junichi Nojo. Son style est inhabituel, il faut l'admettre. Il se signale par des gros plans sur des visages grimaçants et sur les mains des différents acteurs, la finesse de leurs doigts et la dextérité de leurs talents. Peu de dialogues sont au rendez-vous, la lecture s'effectuant d'autant plus rapidement. Donc à chaque boule tirée et placée, le lecteur ressent une émotion palpable, mais au-delà de ses visages expressifs, l'arrière-champ regorge de détails minutieux, notamment lors de plans extérieurs étonnants. Donc nul besoin d'être un expert en billard pour s'intéresser à G-Boy, tant la trame que le dessin servent ce seinen de sport remarquable qui est donc paru en 6 tomes aux éditions Delcourt. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Sayonara Usotsuki, la version piano de Mimi Mimi Mimi. Voilà. Et on reviendra juste après pour une actualité en Chine.
だらけ
C'était la chanson Sayonara Usotsuki, la version piano interprétée par Mimi Mémé Mimi. On passe maintenant à l'actualité en Chine. Donc aujourd'hui est un anniversaire que la Chine ne souhaite pas particulièrement célébrer. Il y a un an, jour pour jour, le 11 janvier 2020, la Chine annonçait qu'un premier mort d'un mystérieux virus avait été enregistré deux jours plus tôt dans la métropole de Wuhan, peuplée de 11 millions d'habitants. Plus de 1,9 million de personnes ont depuis perdu la vie à la surface du globe des suites de l'épidémie de Covid-19. À Wuhan, comme ailleurs en Chine, la pandémie a été largement maîtrisée dès le printemps et le bilan national des décès reste officiellement à 4634 depuis mi-mai. Dans la ville du centre du pays, la première à être placée en quarantaine à compter du 23 janvier 2020, les habitants vaquaient normalement à leurs occupations ce matin, alors que les médias du régime communiste taisaient ce premier anniversaire. Wuhan est la ville la plus sûre de Chine et même du monde à présent, fanfaronne un sexagénaire, Xiong Lanchen. Dans un parc où des retraités dansent ou s'adonnent à leurs exercices matinaux, certains avec un masque sur le visage. Les habitants sont très conscients des mesures de prévention, même mon petit-fils porte un masque quand il sort et il n'a que 2 ans, ajoute M. Xiong. La Chine a été critiquée par sa réaction initiale à l'épidémie. Des médecins de Wuhan qui avaient évoqué l'existence du virus ont été accusés par la police de propager des rumeurs. Le nom même de la première victime connue n'a jamais été rendu public. On sait simplement qu'il s'agit d'un homme de 61 ans qui fréquentait le marché Huanan pour faire ses courses. Ce marché, considéré comme le premier grand foyer de l'épidémie, a d'ailleurs été fermé le 1er janvier 2020. Il était vendu donc des animaux sauvages vivants considérés comme des transmetteurs possibles du virus à l'homme. Aujourd'hui, le marché est resté fermé derrière une longue palissade. Plus au nord, le pays est quant à lui confronté ces derniers jours à une résurgence épidémique limitée dans le Hebei, la province qui entoure Pékin. Une centaine de contaminations y ont été annoncées aujourd'hui pour les dernières 24 heures, soit le chiffre le plus élevé au plan national depuis le mois de juillet. 18 millions d'habitants de deux vastes communes sont donc interdits de sortir des limites de leur municipalité pour le moment. Voilà, donc on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Ima Kawaru Toki de Minami Sakurai, et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale. C'était Minami Sakurai avec la chanson Ima Kawaru Toki. On va maintenant finir l'émission avec une petite news musicale. Donc il y a 7 ans déjà, le groupe sud-coréen GOT7 de l'agence JYP Entertainment faisait ses débuts avec le mini-album Got It. Depuis 2010, la durée maximale d'un contrat dans le monde du divertissement en Corée du Sud est de 7 ans. Ainsi, le contrat liant GOT7 à JYP Entertainment est arrivé à son terme. Tandis que le groupe est apparu hier lors de la 35e cérémonie des Golden Disc Awards, le média Dispatch a quant à lui révélé que l'intégralité des membres a décidé de quitter la JYP Entertainment. Donc depuis plusieurs semaines déjà, des rumeurs planaient autour de Jin Young et Yugyeom, approchés respectivement par BH Entertainment et AOMG. Les discussions entre l'agence et ses membres se sont intensifiées pour déterminer la meilleure solution en vue de la fin des contrats, mais après plusieurs échanges, les opinions ont divergé et c'est ainsi que GOT7 a décidé de quitter l'agence. Le 30 novembre dernier, le groupe publiait son quatrième album studio Breath of Love, Last Peace, porté par les chansons-titres Breathe et Last Peace. Dispatch a également révélé les possibles futurs plans en solo des différents membres, ces derniers assurant vouloir se concentrer sur leur carrière solo et éventuellement revenir en tant que groupe plus tard. Donc Yugyeom devrait signer chez AOMG. Les discussions sont dans la phase finale et Yugyeom a exprimé son intérêt d'apprendre le hip-hop et de danser plus professionnellement. Youngjae a quant à lui été approché par Sublime Artist Agency qui produit notamment Rain, Yomin de Tara et Annie Dexid pour poursuivre ses activités musicales et apparaître dans des publicités et magazines. JB a été approché par différents grands labels de hip-hop et internationaux pour poursuivre une carrière en solo. Jackson développera quant à lui son label Team Wang en Chine et à l'international et il recherche aussi une agence sud-coréenne pour continuer ses activités dans ce pays. Bam Bam sera actif à la fois en Corée du Sud et en Thaïlande. Il considère positivement de signer avec Mekeus Entertainment qui produit notamment Sunmi et Park Won. Mark retournera aux États-Unis pour passer du temps avec sa famille à Los Angeles et il se prépare à ouvrir une chaîne YouTube personnelle et à faire des activités solo en Amérique. Et enfin, Ji-young discute toujours activement avec BH Entertainment pour poursuivre une carrière d'acteur. Donc suite à cela, les membres ont publié une nouvelle photo à 7 sur les réseaux sociaux avec pour légende hashtag GOT7Forever. Ce hashtag est immédiatement devenu une tendance sur les différents réseaux sociaux dans le monde. Mark a également déclaré sur Weibo, donc je cite, « Merci à tous d'être toujours à mes côtés pour me soutenir depuis de nombreuses années. Ce sera maintenant le début d'un tout nouveau voyage et j'ai hâte de vous rencontrer à l'avenir. Je vous aime les gars. » Puis il a déclaré sur Twitter, je cite, « Les 7 dernières années ont été les meilleures de ma vie. Rien n'arrive à sa fin, ce n'est que le début. Nous 7 allons continuer à vous apporter le meilleur de nous jusqu'à la fin. » Il nous reste donc à souhaiter une bonne continuation aux différents membres de GOT7 et à leur souhaiter le meilleur pour la suite. Voilà, donc du coup, Noël est un peu passé, mais on est toujours un peu dans l'hiver. Donc du coup, on va s'écouter une chanson de GOT7 qui fait un peu thème hiver-Noël. C'est Convention Song. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve normalement vendredi prochain de 18h30 à 19h pour mon émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude, lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.
Yeah. 드럼 소리처럼 두근거리 내 품은 너를 꽉안는 날만 기다려 내 달력은 빨간 표시만을 기다리고 내 고백은 나의 용기만을 기다려 여전히 나는 소심한 바보지만 수많은 밤을 새며 썼던 이 노래가 나의 진심을 전해주길 원해 Earphone 한 쪽을 너의 손에 어때?